Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture, à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée avec Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Emma Lichtenstein et Noralie Toussy, à la réalisation Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Florent Bujon. Cette semaine dans Culture Monde, on continue d'explorer l'onde de choc provoquée par les attaques du Hamas du 7 octobre et la riposte d'Israël à Gaza. Investie à nul autre pareil par les opinions publiques et les gouvernements du monde entier, le conflit israélo-palestinien divise profondément. Demain, mardi, nous parlerons du malaise des pays du Maghreb après le rapprochement de certains comme le Maroc avec Israël. Mercredi, nous essaierons de comprendre comment la cause palestinienne s'est enracinée en Amérique latine. Jeudi, nous serons du côté des communautés juives américaines après le choc du 7 octobre. Mais ce matin, restons en Europe, de Madrid à Budapest, une vision radicalement différente du conflit.
Israël a le droit de se défendre, mais cela doit être fait conformément au droit international. Et certaines décisions vont à l'encontre du droit international. L'autorité palestinienne est notre partenaire. Nous ne traitons pas avec le Hamas, mais oui, nous soutenons l'autorité palestinienne et nous travaillons en collaboration avec elle.
Je comprends tout à fait la volonté d'un cessez-le-feu dans cette terrible situation où des enfants innocents, des hommes, des femmes, des mères, des familles souffrent terriblement et meurent. Je comprends l'impulsion en faveur d'un cessez-le-feu, mais les impulsions ne suffisent pas à aider les gens pour garantir réellement la sécurité et la paix.
Nous travaillons très dur, bien sûr, pour obtenir un résultat où il y a un accord des 27 États membres. Mais je pense qu'il est également nécessaire de travailler sur des alternatives potentielles afin de disposer d'une solution opérationnelle, au cas où un accord à 27, à l'unanimité, ne serait pas possible.
Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, puis la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock et enfin la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. C'est un parallèle qu'il est difficile de ne pas établir. Tandis qu'au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens se sont montrés unis comme jamais, déterminés à agir rapidement et à parler d'une seule voix. C'est en ordre dispersé, multipliant les déclarations contradictoires et les rétropédalages que sont apparus les Européens après le 7 octobre. Les attaques du Hamas qui ont fait 1140 victimes, puis l'offensive militaire d'Israël à Gaza qui a entraîné à ce jour, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé du Hamas, la mort de plus de 29 000 personnes ont rappelé à quel point les Européens étaient divisés sur la question du Proche-Orient. Tandis que l'histoire, avec un grand H, depuis la Seconde Guerre mondiale, a largement déterminé la relation que chaque pays européen a construit avec Israël et avec les Palestiniens, les fractures se dessinent peu à peu sur la carte du continent. Les Européens ont-ils toujours été aussi divisés sur la question israélo-palestinienne? Quelles sont les racines historiques, diplomatiques et même idéologiques des affinités et des alignements des uns et des autres? L'appel à un cessez-le-feu, finalement soutenu par tous à l'exception de la Hongrie mi-février, est-il le signe d'une volonté enfin d'agir ensemble? De toutes ces questions, on va discuter ce matin avec nos invités. Pierre Vimont, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis, ancien secrétaire général du service diplomatique européen et aujourd'hui chercheur associé au think tank Carnegie Europe. Et avec nous à distance depuis Prague, Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes historien et politologue, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po. Et je voudrais qu'on commence par essayer d'établir une vue d'ensemble, un panorama des différents positionnements vis-à-vis du conflit israélo-palestinien qui existe sur le continent européen. Pierre Vimont, est-ce qu'on peut essayer de dessiner la répartition géographique de ces différentes postures à grands traits pour commencer cette émission?
On peut essayer, en effet, mais c'est une des postures qui fluctuent, notamment du côté des pays d'Europe orientale et centrale, et je pense que Jacques Rupnik pourra être encore plus précis. Mais pour vous donner une idée, il me semble que le moment le plus révélateur de ce paysage global, ça a été la première réunion que les chefs d'État et de gouvernement ont tenue après les attaques, les massacres du 7 octobre. C'était un Conseil européen qui a dû se tenir vers le 26 ou 27 octobre. La discussion a été difficile entre eux, mais elle a été fructueuse, constructive. Ils ont tous parlé assez librement, une longue discussion de plusieurs heures, au terme de laquelle ils sont arrivés à un accord en dépit de leurs divergences sur faut-il un cessez-le-feu à Gaza tout de suite ou plus tard. Ils se sont mis d'accord sur un compromis diplomatique, donc qui peut paraître à certains ridicule, mais qui était l'idée de promouvoir des pauses humanitaires, pauses au pluriel. Et d'ailleurs, si on regarde bien ce qui s'est passé depuis lors, c'est à peu près ce que la communauté internationale a repris à son compte. Il y a eu une première trêve. Comme vous le savez, aujourd'hui, on négocie sur une deuxième trêve qui permettrait la libération d'otages israéliens d'un côté et la libération de prisonniers politiques palestiniens de l'autre. Ils s'étaient mis d'accord sur ça. Donc, dans la nuit, je crois que c'était entre jeudi et vendredi, tout le monde se met d'accord, on demande des pauses. Quelques heures plus tard, à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a une résolution déposée par la Jordanie demandant un cessez-le-feu. On aurait pu imaginer que les 27 Européens se mettent d'accord pour défendre une position à l'Assemblée générale. Pas du tout. Ils se sont divisés en trois, comme généralement ils le font sur ces questions-là quand elles sont abordées dans des enceintes internationales.
Trois grandes tendances.
Une majorité s'est abstenue, 15. 8 pays ont soutenu la position de la Jordanie demandant à cesser le feu. La France, notamment, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, le Malte, la Slovénie, je crois, et 4 ont voté contre. La Hongrie, vous l'avez cité au début de cette émission, l'Autriche, la République tchèque, et le 4e, si je ne me trompe pas, la Croatie. Donc, comme vous le voyez, plutôt des pays d'Europe orientale et centrale. Et donc, ce qui frappe, ce n'est pas que les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord dans des déclarations, c'est qu'ensuite, quand on passe à l'action, chacun repart dans son coin et mène sa politique étrangère propre. Et au fond, c'est la grande différence par rapport au passé, où peu à peu, les Européens, en tout cas quand ils étaient 12 ou 15, avaient réussi à adopter des positions communes sur le processus de paix et arriver à avoir une action diplomatique unie, commune. C'était l'époque où Javier Solana était le haut représentant pour le poste qu'occupe aujourd'hui Josep Borrell, où il avait un représentant qui était d'ailleurs aussi un Espagnol, tout ça n'est peut-être pas fortuit, Miguel Moratinos, qui était extrêmement présent sur la scène internationale. Nous faisions partie de ce qu'on appelait le groupe du quartet avec les États-Unis, la Russie et les Nations Unies. On avait une feuille de route, on essayait de faire avancer les choses. Aujourd'hui, l'Europe semble totalement absente des initiatives diplomatiques et des actions sur le terrain. Cela se fait sans eux, malheureusement.
Mais parmi les raisons de cette absence, il y a certainement, on va en parler, ces divisions entre États. Jacques Rupnik, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y aurait donc trois grandes tendances, et comment est-ce que vous voyez à grands traits la répartition des nations européennes entre des postures plutôt de soutien fort à Israël, des postures plutôt pro-palestiniennes, et puis ceux qui se retrouveraient au milieu dans une sorte d'équilibre? Est-ce que déjà vous reprenez à votre compte ces trois grandes tendances, et comment est-ce que vous les voyez?
Oui, effectivement, on peut chercher là les trois grandes tendances, et si on veut compliquer le tableau encore et faire mieux comprendre la difficulté de faire émerger une position commune, on peut dire que oui, il y a la diversité commençait par l'Allemagne déjà. Pendant très très longtemps, il était quasiment impossible qu'un gouvernement, inenvisageable qu'un gouvernement allemand se démarque de façon importante de la politique menée par Israël pour des raisons historiques que l'on comprend et qui ont trait à la Deuxième Guerre mondiale. La France avait sa spécificité, bien sûr, avec l'héritage gaullien, avec cette politique d'équilibre ou ce qu'on appelait la politique arabe de la France. Les Britanniques avaient eux aussi leur spécificité à cause de l'héritage historique, à savoir les mandats britanniques, etc. Je pourrais continuer comme ça. Les pays nordiques, la Suède, qui avait traditionnellement une politique étrangère qui, déjà à l'époque de la guerre froide, disait Est-Ouest, oui, c'est important, mais c'est pas la seule dimension des relations internationales. Il y a le Nord-Sud, et il y avait toujours cet engagement nordique pour tout ce qui se passe au sud de la Méditerranée, et en particulier un intérêt pour la question palestinienne. Et je mentionne même pas les pays comme l'Espagne, Portugal ou la Grèce, qui ont eu toujours été très attentifs, avec de la sympathie pour la cause palestinienne. Et donc vous avez, voilà, une très grande diversité. Et là-dessus arrive, dans une Europe élargie, donc à part depuis 20 ans, les pays d'Europe centrale qui, eux, ont aussi leur spécificité et leur approche différente. Et je ne veux pas trop longuement la développer ici.
On va y revenir dans quelques instants, mais puisque vous parliez de l'Allemagne, vous le rappeliez, l'Allemagne s'est longtemps abstenue de toute critique envers Israël pour des raisons historiques. Est-ce que les événements du 7 octobre l'ont conforté dans cette posture? Et en parallèle, est-ce qu'on observe aussi des divisions internes en Allemagne arrivées, puisque à ce panorama que vous venez de dresser l'un et l'autre, il faut ensuite rentrer dans les détails de chaque pays et de chaque gouvernement où il n'y a pas toujours un accord à l'intérieur. Donc sur le cas de l'Allemagne.
Sur le cas de l'Allemagne, moi je dirais que bon, la question de l'Holocauste, la responsabilité allemande pour l'extermination des Juifs fait que la naissance de l'État d'Israël a été vécue, mais pas seulement en Allemagne, mais en Allemagne plus qu'ailleurs en Europe, comme, j'allais dire, la compensation, l'Europe a échoué dans la protection des Juifs sur le continent européen. C'est ça la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça l'Holocauste. Et du coup, il était impensable pour un gouvernement allemand, après ce qui s'était passé, après les 6 millions de morts, d'exprimer des réserves, non seulement sur la création d'un État qui était censé assurer la sécurité des Juifs, mais aussi sur tous les arguments invoqués par la suite sur sa nécessaire protection, la sécurité, etc. Et on a vu que le discours sur la sécurité, justement, a évolué au fil des années, et c'est là où les problèmes devenaient sérieux. Mais donc, oui, il y avait cette spécificité allemande. Vous avez raison de dire que maintenant cela évolue, qu'il y a des nuances. Il y a des différences qui s'expriment. Et alors surtout, il y a un nouveau facteur qui est l'émergence de l'AFD. Et on a un parti qui est à la fois xénophobe, anti-immigré, mais qui aussi véhicule un certain antisémitisme. Et donc la question de l'antisémitisme dont on a parlé en France, par exemple, après le 7 octobre, et c'est un phénomène qui s'est développé, disons, ces dernières années, mais qui a eu une sorte de flambée après le 7 octobre, eh bien en Allemagne aussi. Et soudain, ressurgit une question qui n'était peut-être pas considérée comme importante jusqu'à une période récente. Donc oui, effectivement, il y a des facteurs internes, et l'émergence de l'AFD et son discours à la fois xénophobe, anti-immigré, donc contre des immigrés souvent venus de pays arabes, mais aussi véhiculant, disons, un discours antisémite, tout ça rend la position de l'Allemagne encore plus difficile. Disons, le consensus qui était évident peut-être ne l'est plus tout à fait.
Des évidences qui sont bousculées, on le constate aussi dans certains pays nordiques. Pierre Vimont, la Suède par exemple, qui a longtemps été un soutien très fort aux Palestiniens, votant même la reconnaissance de l'État palestinien, le premier pays européen à le faire, c'était il y a une dizaine d'années, il me semble. En Suède, on voit aussi des évolutions dues à des équilibres électoraux qui sont en train de changer.
Tout à fait. Ce qui est très important à noter dans tout ce terrible dossier, c'est l'importance que prend de plus en plus la politique intérieure des États. Et vous avez cité la Suède, qui en effet a reconnu, parce qu'il y avait une coalition dominée par le Parti socialiste et qui avait donc reconnu seul de tous les pays européens qui n'avaient pas encore reconnu l'État palestinien, la Suède l'a fait. Et d'ailleurs, du coup, s'est trouvé dans une situation assez compliquée sur le plan diplomatique parce que les relations avec Israël étaient devenues pratiquement inexistantes. Mais prenez aujourd'hui, ça sera intéressant de voir comment cela va évoluer. Par exemple, la Slovaquie avec un nouveau Premier ministre, ou le retour d'un Premier ministre plutôt populiste, plutôt dans la veine d'Orban, M. Fico, comment est-ce qu'il va positionner la Slovaquie dans les prochains mois, puisque pour le moment, ils ont plutôt tendance à s'abstenir, à regarder comment les choses évoluent, mais est-ce qu'ils vont passer dans le camp pro-israélien, ce sera assez intéressant à observer. À certains écarts, même, on peut sentir chez le gouvernement français, après les massacres du 7 octobre, un peu d'hésitation compte tenu de notre politique intérieure aussi et de l'importance de la communauté musulmane, la volonté de faire attention pour ne pas se retrouver dans une position délicate. Et donc on a bien vu qu'il a fallu peu à peu rééquilibrer après les premières réactions très émotionnelles à la suite des massacres du 7 octobre. Donc on voit bien que dans tous les pays, il y a cet aspect-là qui joue. J'ajouterais aussi autre chose, les positionnements, je dirais, presque historiques, c'est-à-dire l'Espagne, qui, comme beaucoup de pays méditerranéens, est plutôt favorable aux thèses palestiniennes, l'est encore plus parce qu'elle a été le pays hôte de la grande conférence de la conférence de Madrid de 1991, qui a peu à peu débouché sur toute une série d'accords et notamment ce qu'on a appelé les accords d'Oslo qui ont été le moment où on a vraiment espéré qu'on pourrait arriver à la coexistence de deux États vivant côte à côte. L'Espagne se sent investie en quelque sorte de cet héritage historique et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Premier ministre espagnol plaide pour une nouvelle conférence dont il espère bien qu'elle sera la suite de Madrid 1 et qu'elle sera une sorte de Madrid 2. Donc il y a tout ça qui doit être pris en compte et qui est essentiel pour la compréhension des divisions entre Européens.
Prenons le temps de comprendre ce qui se passe plus à l'est de l'Europe. Jacques Rupnik, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne dans une certaine mesure, de nombreux pays d'Europe centrale sont aujourd'hui très proche d'Israël. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'alignement avec Israël? Et si oui, de quand date cette proximité entre de nombreux pays d'Europe centrale et Israël?
Disons, c'est une convergence qui s'est dessinée progressivement depuis les années 90, mais qui s'est véritablement exprimée plus récemment avec l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban en Hongrie d'un côté, mais plus généralement d'émergence de gouvernements avec une sensibilité, dirons-nous, nationale populiste, voilà, pour aller vite. Et ça peut paraître paradoxal, mais ils ont ensemble, le groupe de Visegrad par exemple, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, ont adopter des positions communes, donc de la convergence, on est passé à la position commune en 2017, 2018, et ils ont fait un sommet commun à Budapest sur Israël, sur leur relation avec Israël, et ils ont commencé là à se démarquer par rapport à ce qu'était disons, la position européenne, le consensus européen, ou en tout cas affirmer une musique un peu distincte. Alors, nous l'avons vu au cours des... du conflit récent, au cours depuis les événements du 7 octobre, voilà, adopter des positions refusant catégoriquement tout appel au cessez-le-feu.
Pour donner,
oui, mais aussi pas en.
Pardon, oui. Pardon de vous couper. C'était simplement pour donner un exemple. La ministre tchèque de la Défense a plaidé pour un retrait de l'ONU. C'était suite au vote à l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire fin octobre. Alors après, le Premier ministre a pris ses distances avec cette initiative. Toutefois, ce n'est quand même pas rien que de proposer de quitter l'ONU. Vous avez été surpris par cette prise de position de la diplomatie tchèque. Comment est-ce que qu'est-ce qu'elle révèle derrière?
Ben, disons, bon, c'était le cas, c'est un cas extrême, parce que même Israël ne cherche pas à quitter l'ONU. Alors, c'est étrange que le gouvernement tchèque, voulant montrer son soutien à Israël, se dise prêt à quitter l'ONU. Donc, ça, c'est le cas extrême. Mais si on veut comprendre, bon, il faut remonter peut-être un peu à l'histoire. Il y a la Deuxième Guerre mondiale et le fait que l'Holocauste, l'extermination des Juifs, ça a lieu en Europe centrale et orientale. C'est là qu'étaient les plus grandes communautés juives, c'est là que c'est fait. Donc il y a la Deuxième Guerre mondiale et parfois le sentiment, alors qui n'est pas exprimé ouvertement, mais voilà, un sentiment de culpabilité latent. On n'a pas fait peut-être assez dans certains cas pour sauver ces populations. Il y a aussi le sentiment, alors là c'est partagé avec Israël, l'idée que les nations d'Europe centrale, ils ont connu 1920, regardez pour les Hongrois, le grand traumatisme Trianon, hein, c'est-à-dire les traités de lendemain de la Première Guerre mondiale, la Hongrie privée des deux tiers de son territoire, un quart de sa un tiers de sa population. 1938, Munich pour les Tchèques, 1945, Yalta. Le sentiment que de la vulnérabilité de ces nations et de leurs États. Et donc il y a une sorte d'identification avec l'idée de ce sentiment de vulnérabilité extrême d'Israël, et donc la question de sécurité devient numéro un. Donc, dès que la sécurité d'Israël est invoquée, on s'en obligé de soutenir. Il y a eu aussi l'héritage de la période communiste. L'Union soviétique avait soutenu la création d'Israël en 48, mais très vite a basculé dans le soutien aux pays arabes, dans leur conflit avec Israël. Et tous les pays communistes, donc pendant 40 ans, ces pays ont eu comme politique étrangère officielle le soutien aux pays arabes contre Israël, et la propagande du régime était constamment anti-Israël, anti-sionisme, avec bien sûr des poussées antisémites ouvertes, comme en Pologne en 1968, où on a encouragé les juifs polonais, ceux qui étaient encore en Pologne, à partir. Il n'y en avait plus énormément. Et bref, il y a cet héritage de la période communiste, et donc la tentation, après la chute du communisme, d'adopter la position inverse. Pendant 40 ans, le régime ONI avait la position pro-arabe, je simplifie comme ça à l'extrême, eh bien on prend la position inverse. Et puis un dernier facteur qui a joué, qui est, j'appellerai ça pour aller vite, l'alignement pro-américain. Puisqu'on considère que la sécurité de ces pays aujourd'hui est principalement garantie par les États-Unis, eh bien on est prêt à suivre la politique américaine sur d'autres sujets, pas seulement européens, mais par exemple le Moyen-Orient. On l'a vu au moment de la guerre en Irak, ils ont apporté leur soutien à la politique américaine à ce moment-là, et c'est vrai aussi pour la politique américaine vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Le soutien, par exemple, c'était en 2017, si je ne me trompe, ou 2018, quand les États-Unis sous Donald Trump ont décidé de déplacer la frontière, l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a été critiqué par l'Union européenne, mais les pays d'Europe centrale ont soutenu. Et le groupe de Visegrad voulait même faire de même, déplacer les pays du groupe de Visegrad, déplacer leur ambassade. Ils voulaient même faire un sommet du groupe de Visegrad avec Israël à Jérusalem, qui n'a pas eu lieu, ce sommet, parce qu'il y a eu entre-temps une controverse entre la Pologne et Israël à propos de l'histoire. Et je ne rentre pas là dans les détails, mais en gros, ça concernait la responsabilité ou la co-responsabilité polonaise dans ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, un ministre israélien disant que les Polonais avaient été biberonnés à l'antisémitisme, et ça a complètement rompu la dynamique précédente engagée. Mais voilà, c'est une illustration. L'alignement pro-américain, je crois, jouait là-dessus. Et dans la phase actuelle, bien entendu, cela rend difficile de trouver une position européenne commune. Ils accepteront le programme minimum, disons. Voilà.
Vous l'avez dit, Jacques Rupnik, les relations entre la Pologne et Israël sont assez complexes. Celles entre la Hongrie et Israël, notamment, sont nettement meilleures.
Au nom du gouvernement hongrois, j'ai précisé que nous reconnaissions le droit d'Israël à se défendre et nous espérons que d'autres conviendront de notre droit à le faire aussi. Je tiens également à vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de défendre Israël dans les instances internationales. Vous l'avez fait maintes et maintes fois et nous apprécions votre position non seulement parce qu'elle prouve que vous êtes du côté d'Israël, mais aussi de celui de la vérité.
Déclaration conjointe en 2017 de Viktor Orban puis de Benjamin Netanyahou à l'occasion de la visite en Hongrie du dirigeant israélien. C'était la première visite d'un premier ministre israélien depuis 1989 en Hongrie. Pierre Vimont, du côté de la diplomatie israélienne, justement, est-ce qu'on note une action particulièrement active ces dernières années pour renforcer les liens avec les pays d'Europe centrale et peut-être même depuis les premiers gouvernements Netanyahou, c'est-à-dire déjà dans les années 90?
Netanyahou a toujours été très très clair vis-à-vis de ce qui était pendant longtemps la position tracée par l'Union européenne, hein, qui avait commencé il y a très longtemps avec la déclaration de Venise en 1980, puis l'idée du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, la reconnaissance de l'OLP comme l'interlocuteur pour les négociations internationales, et toute cette position de l'Union européenne qui s'était construite lentement, mais qui était devenue une sorte de corps de doctrine assez, assez fort, avec notamment l'idée qu'il fallait aller vers la solution des deux États, comme je le disais tout à l'heure. Cette ligne-là était contestée par Netanyahou dès qu'il est arrivé au pouvoir. En réalité, Netanyahou, depuis le début, a dit qu'il n'aimait pas cette idée de deux États vivant côte à côte.
Donc il a cherché à se constituer des alliés à l'intérieur de l'Union européenne pour porter une autre posture.
Dès lors qu'il a vu qu'il pouvait commencer à diviser les Européens, que notamment après l'élargissement, il a commencé à percevoir chez les nouveaux membres venus d'Europe orientale et centrale peut-être une plus grande sensibilité à l'égard des positions qu'il défendait, eh bien il a commencé à essayer de jouer de la division entre les Européens et il a assez bien réussi de ce côté-là. Et donc Jacques Rupnik y faisait allusion, il y a même eu, si je me souviens bien, à l'époque où la tension n'était pas revenue dans les relations entre la Pologne et Israël, mais la Pologne a organisé une grande conférence internationale où, si je me souviens bien, même Donald Trump est venu, où Netanyahou était là, qui était très clairement une conférence visant à soutenir les thèses défendues par Netanyahou. Et donc les autres Européens qui étaient invités là étaient très mal à l'aise, y compris la la France. Ils sont venus, mais avec un niveau de représentation assez faible, mais les divisions étaient très très fortes. Je voudrais juste ajouter à l'excellent historique et à tout ce qu'a dit Jacques Rupnik, peut-être un dernier élément, outre le fait qu'avec le retour de Trump au pouvoir à Washington, le dossier s'est tendu incontestablement, parce que il n'y a pas eu simplement le transfert de l'ambassade à Jérusalem, il y a eu la reconnaissance de l'annexion du Golan par Israël, il y a eu aussi les accords d'Abraham qui étaient importants parce que c'était, comme vous le savez, le début d'une reconnaissance de la part d'États arabes qui avaient été jusqu'à l'époque hésitants, à la différence de l'Égypte et de la Jordanie, mais ça a été les Émirats, vous avez cité le Maroc, et donc pour les Européens, s'est posé la question de savoir s'ils soutenaient cette initiative, s'ils soutenaient les accords d'Abraham, qui en réalité passaient sous silence toute la question palestinienne. Et pour beaucoup d'Européens, c'était très très difficile. Et il y a eu un débat extrêmement compliqué entre Européens, et à la fin, une position européenne qui, sur les accords d'Abraham, était très ambiguë et très hésitante. Mais j'ajouterais à ça un autre élément. Au fond, il faut regarder cette affaire du Moyen-Orient dans son contexte. Le Moyen-Orient, c'est l'une des composantes du voisinage de l'Europe, la politique de voisinage dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, mais également l'Europe de l'Est. Et pour beaucoup de ces membres d'Europe orientale et centrale qui sont entrés dans l'Union européenne en 2004, il y a eu aussi un réel effort pour que la politique de voisinage européenne se rééquilibre vers l'Europe de l'Est, et que du coup on parle un peu moins et qu'on fasse un peu moins d'efforts du côté du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Rééquilibrer les crédits qui étaient distribués à ces pays, faire un réel effort vers des pays comme l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ce qu'on a appelé le partenariat oriental. Et donc on le voyait bien dans toutes les réunions des ministres des Affaires étrangères, que ces pays d'Europe orientale et centrale, leur priorité, c'était que, vis-à-vis de cette politique du voisinage, la priorité devienne désormais l'Europe de l'Est et un peu moins les partenaires du Sud, comme on disait. C'était davantage en faveur de l'Est, un peu moins en faveur du Sud. Et cet élément-là a sans doute joué aussi dans les divisions de plus en plus fortes entre Européens.
Jacques Rupnik, encore un mot sur le cas de la Hongrie. Orban et Netanyahou ont affiché à plusieurs reprises leur proximité. On l'a entendu dans l'extrait qu'on a diffusé il y a quelques instants. On sait quand même que Orban est en guerre ouverte avec le milliardaire d'origine hongroise George Soros, qu'il accuse de tous les maux, et on sait qu'il n'hésite pas à surfer sur des références antisémites dans cette campagne. Est-ce que c'est un point de friction avec les Israéliens, ou est-ce que ça ne gêne pas Netanyahou au fond, au nom d'une autre réelle politique?
Ça ne gêne pas la convergence, disons, la proximité Orban-Netanyahou est effectivement très intéressante. Vous savez que dans la dernière campagne électorale, il y a 2 ans, Bibi Netanyahou avait des affiches électorales où on voyait Netanyahou, et à côté, 4 leaders. Il y avait Trump, Bolsonaro, Orban et, devinez, Poutine. Mm. Et en dessous, la légende, c'était quelque chose comme « voilà les vrais leaders ». Ça, c'est la Champions League. Ça, c'est ceux qui vraiment savent agir, décider, etc.
Donc Orban a fait figure de modèle. Pardon, Orban a fait figure de modèle pour Netanyahou.
Oui, pour beaucoup, disons. Maintenant, vous voyez comment les Trumpistes aux États-Unis apprécient Orban. Le Carlson qui vient d'interviewer Poutine, il avait interviewé avant, il avait interviewé Orban. Mais cette proximité Orban et Netanyahou, elle est réelle. C'est même Netanyahou qui a recommandé à Orban... les 2 experts en propagande électorale ou en campagne électorale, qui venait des États-Unis et qui, a-t-il dit à Orban, lui ont permis de gagner les premières élections, c'était il y a une dizaine d'années, et il les a recommandés à Orban. Orban les a fait venir à Budapest et lui demande, mais quel est votre problème, qui est votre principal adversaire? Et Orban dit, c'est le leader du Parti Socialiste, à l'époque c'était Gyurcsány, etc. Il mentionne quelqu'un, il dit, c'est trop mou. Et finalement, c'est eux qui disent, parmi ceux que vous nous avez mentionnés, le vrai potentiel électoral, ça sera Soros. Et effectivement, ils ont fait les affiches de la campagne électorale avec Juncker, le président de la Commission européenne, et derrière lui, Hillard, George Soros. Sous-entendu, c'est lui qui tire les ficelles, etc. Et toute la campagne a été menée là-dessus. Et donc l'idée que derrière les injonctions de l'Union européenne vis-à-vis de la Hongrie, sur la question de l'état de droit par exemple, qu'il y avait Soros et des influences occultes. Et donc on a pu jouer effectivement sur ce sentiment antisémite. Donc je ne dis pas que ça explique entièrement l'alignement de le soutien inconditionnel que la Hongrie donne à Israël, mais c'est certainement un élément. Et alors je dirais pour revenir sur ce qui a été abordé, c'est-à-dire les deux voisinages. Il y a le voisinage est et le voisinage sud. Et effectivement, pour les pays d'Europe centrale, et avec la guerre en Ukraine d'un côté et la guerre à Gaza de l'autre. Je ne les mets pas sur le même plan et au même niveau, mais il y a les deux conflits et il y a l'interaction entre les deux. Et de même que, comme l'a dit Pierre Vimont, il y a cette dualité, priorité au voisinage est ou au voisinage sud. Bien sûr, la réponse européenne, c'est les deux. mais selon les périodes, on cherche le bon équilibre entre les deux. Et là, on a une interaction ouverte entre les deux conflits. Et donc, vu de Pologne ou des pays baltes, c'est bien entendu, il ne faut pas laisser le conflit à Gaza servir de dérivatif à Poutine, qui, via l'Iran, via le Hamas, a tissé un conflit qui sert de dérivatif par rapport à la question ukrainienne. Et vous avez donc un souci des Européens de l'Est de mettre l'accent, la priorité, pas seulement sur le voisinage Est, mais sur la guerre qui est menée à l'Est, c'est-à-dire en Ukraine. Le soutien à l'Ukraine ne doit pas être en quelque sorte affaibli par les divisions ou diversions, c'est pas exactement le mot qu'ils utiliseraient, du conflit moyen-oriental.
On voit bien les répercussions entre ces deux grands conflits ouverts actuels. Il nous reste quelques instants, je voudrais qu'on dise un mot du plan de paix qui a été proposé par Josep Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne. Un plan de paix en 10 points qui prévoit la reconnaissance à terme d'un État palestinien et la normalisation des relations entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Est-ce qu'il y a consensus européen sur ces deux grands points à l'intérieur de ce plan, et finalement, quelle est l'ambition de ce nouveau plan, Pierre Vimont ?
C'est un plan qui vise à relancer un peu ce qui était, comme je le disais tout à l'heure, le corps de doctrine de l'Union européenne tout au long des années précédentes. Il remet en place l'idée d'une solution à deux États.
Laquelle l'Union européenne avait été pionnière dans les années 80.
Avait été tout à fait pionnière. Et d'ailleurs, les Américains, qui ont toujours eu la diplomatie la plus active dans la région, ont souvent dit qu'ils tiraient profit des avancées, je dirais, conceptuelles que les Européens étaient les premiers à faire et qu'ils en tiraient profit pour leur propre diplomatie. Donc oui, c'est la remise, je dirais, ou la mise à jour, en quelque sorte, de cette doctrine, tenant compte quand même de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, essayant de trouver de nouvelles voies très concrètes, l'idée d'une conférence internationale, l'idée maintenant qui devient de plus en plus forte, qui est celle de la reconnaissance, enfin, de l'État palestinien, la question étant de savoir à quel moment se situerait cette reconnaissance. Est-ce que ce serait, comme on le disait jusqu'à maintenant, à la fin de tout le processus de paix, ou au milieu, voire même au début. Par exemple, la délégation espagnole plaide pour que la reconnaissance de l'État palestinien, en réalité la reconnaissance des deux États palestiniens et État israélien, puisqu'il y a encore dans la communauté internationale des pays qui n'ont pas reconnu Israël, que l'idée d'une grande conférence internationale devrait être précédée par la reconnaissance par tous les participants à cette conférence de ces deux États. Donc c'est ça un peu ces idées qui tournent autour de la table, que Borrell a mis sur la table, mais qui n'ont pas encore recueilli définitivement l'accord des 27. Et on voit bien que l'un des problèmes, c'est que faute de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire maintenant, on essaye de se mettre d'accord sur le jour d'après, mais reste que comment arrêter actuellement ce qui se passe à Gaza est beaucoup plus compliqué pour avoir un accord à 27.
Floating on a Moment de la chanteuse anglaise Beth Gibbon, la chanteuse du groupe Portiched. Vous écoutez Culture Monde, premier volet de notre série Guerre Israël-Hamas, le conflit qui divise le monde. Jacques Rupnik et Pierre Vimont sont nos invités pour parler des désaccords entre Européens sur ce sujet hautement sensible. Et on retrouve dans un instant une nouvelle invitée pour parler de l'un des plus fervents soutiens aux Palestiniens en Europe, la République d'Irlande.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Gaza, the graveyard of children.
Gaza se transforme en tombeau pour une génération entière. Un enfant meurt là-bas toutes les 10 minutes. Israël prétend agir dans le cadre de la légitime défense, mais ce tapis de bombes indistinctement envoyé sur la tête des civils et le massacre d'enfants ne relève pas de la défense.
La députée et présidente du parti du Sinn Féin, Marie-Lou MacDonald, le 12 novembre, un discours très critique à l'égard du gouvernement israélien de la part de cette figure de l'opposition dans un pays qui est aujourd'hui l'un des porte-voix de la cause palestinienne en Europe. Quelles sont les racines de cette sensibilité pro-palestinienne en Irlande? Comment le pays tente-t-il de peser auprès de ses partenaires? Bonjour Marie-Violaine Louvet.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Culture Monde. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique et irlandaise à l'université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Vous êtes l'autrice de Civil Society, Postcolonialism and Transnational Solidarity. C'était paru en 2016 chez Palgrave Macmillan. Marie-Violaine Louvet, ce discours très critique envers Israël dont on vient d'entendre un extrait de la part du Sinn Féin, à quel point est-ce qu'il est représentatif d'un sentiment plus largement sentiment partagé en Irlande ?
Je dirais que le Sinn Féin se fait le porte-voix d'un sentiment qui est généralement partagé en Irlande sur la base de l'histoire coloniale du pays, puisque le récit national irlandais est marqué par cette histoire coloniale avec la Grande-Bretagne et que il participe d'une identification avec le sort du peuple palestinien, d'un sentiment d'identité commune entre les deux nations. En effet, la colonisation de l'Irlande a commencé au XIIe siècle, mais s'est accentuée ensuite par des colonies de peuplement au XVIe et au XVIIe. Et la République d'Irlande est un État récent au sein de l'Union européenne, puisque l'État libre d'Irlande, qui a été créé suite à la guerre d'indépendance et suite à la guerre civile, date du début des années 20. Et tout de suite après l'indépendance, l'Irlande, qui d'abord n'est pas la République d'Irlande, mais l'État libre d'Irlande, un dominion du Royaume-Uni, puis qui deviendra plus tard la République d'Irlande, cherche à marquer sa différence, notamment par une politique étrangère qui se distingue de celle du Royaume-Uni.
Est-ce que vous voulez dire, Marie-Violaine Louvet, qu'il y a une sorte d'identification des Irlandais aux Palestiniens, donc en raison, vous l'avez rappelé, de leur propre expérience de la colonisation, en l'occurrence la colonisation britannique ?
Exactement. Il y a une grande méfiance de toute forme d'impérialisme, une méfiance vis-à-vis de la discrimination systématique à l'encontre d'une partie de la population qui a des résonances en Irlande, et aussi, bien sûr, de la partition du territoire, puisqu'on sait que l'île d'Irlande est aujourd'hui encore divisée entre l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni et la République d'Irlande qui est un État indépendant.
Il y a quelques jours, l'Irlande et l'Espagne ont appelé l'Union européenne à réexaminer l'accord d'association aujourd'hui en vigueur avec Israël pour déterminer si Israël respecte ses obligations en matière de droits de l'homme. Juste rappeler que cet accord d'association comprend notamment des accords commerciaux, une facilitation des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël. Est-ce que cette proposition a des chances de peser sur le reste de l'Europe, et comment est-ce que globalement la diplomatie irlandaise est à la manœuvre depuis 4 mois pour peser sur la diplomatie européenne?
Oui, cette lettre à la Commission européenne a été la concrétisation de diverses annonces du gouvernement irlandais, notamment concernant le fait qu'il rejoindrait peut-être la Cour internationale de justice qui avait été sollicitée par l'Afrique du Sud. Aussi, ils ont annoncé récemment le don de 20 millions d'euros à l'UNRWA, à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Donc on voit qu'ils essaient de peser sur l'Union européenne, donc que l'Irlande a rejoint dans les années 70. Maintenant, est-ce qu'ils ont une chance d'avoir une influence ? Certainement, puisqu'ils vont se faire le porte-voix en cherchant des alliés, notamment l'Espagne. Donc, effectivement, je pense que leur action peut contribuer à, en tout cas, prendre à contre-pied le soutien à Israël qui a été affirmé par certains autres membres de l'Union européenne, comme il a été expliqué par les invités de l'émission.
Et du coup, oui, pardon.
Non, j'avais juste souligné le fait que ce positionnement du gouvernement irlandais actuel, qui est un gouvernement de centre-droit, mené par une coalition entre deux partis de centre-droit, Fine Gael et Fianna Fáil, n'est pas récent, mais s'inscrit dans la continuité par rapport à un positionnement qui a été pris depuis la fin des années 1960, suite à la guerre des Six Jours. Puisqu'en 1980 aussi, par exemple, l'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine comme le représentant légitime du peuple palestinien. Donc on voit que les actions qui sont menées actuellement par ce gouvernement s'inscrivent dans cette sensibilité particulière à la cause palestinienne en Irlande due à cette histoire coloniale.
Et du côté de la société civile, Marie-Violaine Louvet, comment se manifeste le soutien aux Palestiniens et qui sont les acteurs, qui sont les relais de la cause ?
Alors on assiste à une forte mobilisation de la société civile qui aiguillonne en fait le gouvernement pour chercher à l'influencer de la manière la plus forte possible. Cette action donc consiste à organiser des marches qui ont lieu environ tous les 15 jours à Dublin, mais aussi dans d'autres villes plus petites telles que Cork, Galway, Kilkenny. Il y a deux associations en particulier qui sont très actives, la campagne de solidarité Irlande-Palestine et le mouvement anti-guerre. Et ce sont deux actions qui ont été très actives à partir notamment de la seconde intifada au début des années 2000. Et suite à cette seconde intifada, il y avait eu cet appel de la société civile palestinienne en 2005 au boycott d'Israël, donc le ce qu'on appelle le BDS, cette politique de boycott, désinvestissement, sanctions. Et cet appel au boycott a été très suivi en Irlande, pas de manière uniquement anecdotique. On peut souligner par exemple le vote par la Fédération nationale des syndicats irlandais en 2007 du boycott d'Israël, mais aussi de la plus grande association nationale d'artistes qui est sponsorisée par l'État la même année, et puis des grandes villes comme Dublin, par exemple, le conseil municipal de Dublin a voté le boycott, et s'ajoutent à cela des actions dans le monde culturel. On voit des écrivains à succès comme Paul Lynch, par exemple, qui a reçu le Booker Prize pour son ouvrage récent, là, Le Prophète, ou Sally Rooney, qui participe à des lectures en soutien de la Palestine. Sally Rooney a refusé, par exemple, en 2021, la traduction en hébreu d'un de ses ouvrages. Et cet appel est aussi relié dans le monde du sport. On a vu récemment les basketteuses dans les qualifications pour l'Euro refuser de serrer la main des joueuses israéliennes qui les avaient accusées d'antisémitisme. Il y a aussi des actions des corporations professionnelles, des avocats, des journalistes. Donc il y a un dynamisme fort de la société civile qui vient nourrir ce positionnement au niveau de l'État et l'influence que tente d'avoir l'Irlande au sein d'institutions internationales comme l'Union européenne ou l'ONU.
Est-ce que au cœur de cette dynamique dont on entend qu'elle fait consensus entre les différents partis sur la scène politique et qu'il y a un mouvement très dynamique dans la société civile, est-ce qu'on entend aussi des voix pour défendre Israël et aussi pour dénoncer les attaques terroristes qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre ?
Eh bien, peu, mais principalement, du coup, en Irlande du Nord. Parce que en Irlande du Nord, donc qui a subi le conflit civil des troubles de la fin des années 1960 à la fin des années 1990, il y a eu une identification des deux parties et un déplacement symbolique du conflit nord-irlandais vers le conflit au Proche-Orient. Donc, les catholiques nationalistes se sont appropriés la cause palestinienne, alors que de l'autre côté, les protestants unionistes se sont appropriés le point de vue israélien. Et donc de ce point de vue-là, au sein de la communauté unioniste protestante, au sein de mouvements aussi évangéliques en Irlande du Nord, on peut trouver un soutien à Israël. Dans la République d'Irlande, ces voix seront minoritaires, portées principalement par des nouveaux mouvements chrétiens, influencés notamment par les États-Unis.
Merci, merci beaucoup Marie-Violaine Louvet pour cet éclairage sur l'Irlande. Je rappelle, maîtresse de conférence en civilisation britannique et irlandaise à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Votre ouvrage « Civil Society, Post-Colonialism and Transnational Solidarity » est paru aux éditions Palgrave Macmillan. Merci beaucoup à nos deux invités de la première partie, Pierre Vimont et Jacques Rupnik. Et dans un instant, c'est la revue de presse internationale de la rédaction. Revue de presse présentée aujourd'hui par François Chagnot. Et François Chagnot, on commence avec l'ex-patron de la NRA, le très puissant lobby pro-armes américain condamné pour abus de biens sociaux.
La seule chose qui peut arrêter un méchant avec un flingue, c'est un gentil avec un flingue, aimait-il à dire, rappelle le New York Times. Ce qui a arrêté Wayne Lapierre, c'est cette condamnation pour abus de biens sociaux vendredi dernier, vous le disiez. Et notre John Wayne de Washington, c'est son surnom, va devoir rembourser 5 400 000 dollars à la NRA. Avant de démissionner en janvier dernier et pendant ses 30 ans à la tête du lobby pro-armes, Wayne Lapierre a allègrement pioché dans la caisse pour financer son train de vie exubérant. La procureure générale de New York en dessinait les contours au début de l'action en justice. C'était en 2020. Monsieur Lapierre a dépensé des centaines de milliers de dollars des fonds caritatifs de la NRA pour des voyages personnels en avion privé. Il s'est rendu au moins 8 fois aux Bahamas en jet privé pour un montant total de plus de 500 000 dollars. Il a reçu plus de 1 200 000 dollars en remboursement de dépenses comprenant des cadeaux pour ses amis et vendeurs favoris, des frais de voyage pour lui-même et sa famille et des frais d'adhésion à des clubs de golf. Et ça ne s'arrête pas là, rappelle le New York Times, qui consacre un article à la passion sartoriale du lobbyiste des armes avec plus de 275 000 dollars de costumes de luxe aux frais de la princesse. Après ce scandale, Wayne Lapierre laisse une NRA en perte de vitesse, 4 200 000 membres contre presque 6 millions il y a 5 ans et des recettes en baisse de 44% depuis 2016 selon des audits internes. Enfin, cette condamnation, c'est une victoire majeure, encore une pour la procureure général de New York, rappelle Newsweek. Laetitia James, qui mène aussi une bataille contre Donald Trump. L'élu démocrate vient d'ailleurs d'obtenir la condamnation de l'ancien président à verser 454 millions de dollars pour avoir exagéré sa fortune.
Et puis à présent, direction l'Allemagne qui donne le feu vert à la légalisation du cannabis.
L'agence de presse DPA détaille le calendrier et le contenu de la loi adoptée vendredi par le Bundestag. En principe, à partir du 1er avril, nos voisins d'outre-Rhin pourront acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis par jour maximum, pas dans des boutiques dédiées, mais par le biais d'associations à but non lucratif, des cannabis clubs comme il en existe en Catalogne par exemple. Les Allemands auront aussi le droit de cultiver jusqu'à 3 plants de cannabis pour leur consommation personnelle et tout cela bien sûr reste réservé aux majeurs de plus de 18 ans. Alors cette loi, c'était un emblème de la coalition sociodémocrate vert libéraux démocrate au pouvoir depuis fin 2021. Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, s'est félicité de son adoption devant le Bundestag. Nous poursuivons deux objectifs. Le premier objectif est de lutter contre le marché noir. Le deuxième est de mieux protéger les enfants et les jeunes. Il y a beaucoup de voix discordantes. J'en suis conscient, c'est une décision difficile à prendre. Ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas une situation optimale dans laquelle nous nous trouvons, mais les addictologues nous indiquent la voie à suivre. C'est la voie qui fonctionne, loin de la pénalisation, loin du tabou. Nous devons faire face aux problèmes. Alors la loi sera soumise au Conseil fédéral au mois de mars, une formalité hein, avant son application le 1er avril. Mais dans ses pages politiques, Le Spiegel doute que le calendrier souhaité par la coalition soit respecté. En effet, la Bavière, tenue par les chrétiens démocrates de la CSU, opposée à la légalisation, veut à minima retarder l'application de cette loi. Le Parlement du Land va pour cela faire appel à une commission de médiation avec le Bundestag. Et quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à prendre position contre la consommation dangereuse de cannabis si la loi entre en vigueur, a prévenu la ministre de la Santé du Land de Bavière.
Et enfin, dans l'édition colombienne d'El País, cette question: Monsieur, pourquoi avez-vous tué ma mère ?
Elle est posée sur une feuille de papier rose par une orpheline à un détenu, un guérillero des FARC. Le quotidien hispanophone s'intéresse à la place des enfants dans la justice restaurative, un processus qui, par le dialogue, cherche à exorciser la souffrance des victimes et mettre fin au cycle de la violence. Depuis 2022, en Colombie, des dizaines d'enfants et d'adolescents ont échangé avec des FARC condamnés par la juridiction spéciale pour la paix. Rien ne brise les barrières comme la communication contenue dans ces lettres, assure un expert en mémoire et réconciliation interrogé par El País. À cette petite fille qui lui demande pourquoi il a tué sa mère, l'assassin répond: je ne savais pas qu'il y avait des gens qui l'aimaient autant et à qui elle allait manquer. Pardonne-moi.
Merci beaucoup François Chagnot. On vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume Herner. Et demain, dans Culture Monde, on se retrouve pour le second épisode de notre série sur la façon dont le conflit entre Israël et le Hamas divise le monde. Il sera question du malaise des pays arabes et notamment du Maghreb. Et dans un instant, les midis de Culture.